Loz Actuali.
Loz Actuali.
Revue de presse.
Hashtag
portrait chinois.
Et bien sûr,
l'invité du jour.
C'est tout de suite dans Loz Actuali.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour une nouvelle émission de Loz Actuali. Et voilà. C'est n'importe quoi aujourd'hui, vous l'aurez compris, on est en retard, les jingles partent alors qu'ils n'étaient pas prévus, tout va bien. Ça va bien se passer, on va se déstresser. Bienvenue à tous, bonjour Eric.
Bonjour les gens.
On salue Caroline qui est à Paris, vous le savez pourquoi, on y reviendra tout à l'heure un petit peu, puisqu'elle sera ce soir sur le plateau de Frédéric Lopez. Voilà, c'est l'actualité du jour, forcément au niveau télé. Donc pour la remplacer aujourd'hui, Julia. Bonjour Julia.
Salut.
Et puis donc nous accueillons nos invités, la compagnie de la joie errante. Bonjour.
Bonjour. Bonjour à tous.
Bonjour.
Alors bon, on va faire connaissance avec vous évidemment pendant cette émission. Et puis on parlera un petit peu de votre projet qui est en cours, notamment avec une résidence d'artistes en ce moment au Centre culturel loisirs et au Ciné-Théâtre de Saint-Chély.
Exactement, au Ciné-Théâtre de Saint-Chély, oui.
Voilà. Eric, il sera question dans ta chronique.
Dire.
Voilà, ok. Voilà, c'est comme ça laisse un peu planer les choses. Pour toi, Julia.
De musique.
De musique, mais voilà, je pense que ça va tout va tourner autour de la musique aujourd'hui. On retrouvera évidemment le portrait chinois, la rubrique hashtag et la revue de presse. Radio Londres pour toi,
c'est
Eric,
ça, c'est hashtag ça Radio Londres.
Pour Julia, pas de,
non,
de revue
pas
de presse.
Hashtag.
Voilà, bon. Et ben pour moi, ça sera un hashtag alambic.
Ah.
Hein, voilà. Bon, je pense que la virgule va partir quand même.
Loz Actuali.
Allez, première partie de cette émission Loz Actuali. Donc, on va faire connaissance avec vous, la compagnie La Joie Errante. Alors, qui êtes-vous? Tous les trois.
Alors, qui on est? Alors, la compagnie de la joie errante, moi c'est Thomas Pouget, donc je suis lausérien et puis je suis acteur et metteur en scène. Il y a Valentin Clerc qui est aussi acteur et puis Sylvain Lecomte qui est acteur et metteur en scène aussi. Valentin, toi tu viens de Bourgogne.
Je viens de Bourgogne, je suis né à Beaune et je viens de terminer une école d'art dramatique à Saint-Étienne.
Et moi, je suis né donc à Dole, dans le Jura, et j'ai fait le conservatoire de Besançon, mais c'est là où on s'est rencontrés tous les trois.
Il y a 6 ans à peu près, il y a 6 ans qu'on s'est rencontrés, et puis on a toujours gardé contact, et on a décidé en fait de monter un projet commun ensemble, puisque j'ai été contacté en fait en septembre dernier par Samuel Lecabec, qui est le directeur du ciné-théâtre, et puis qui... a vu mon travail et puis on a beaucoup échangé aussi sur notre éthique commune et on en est venu à se dire qu'il fallait qu'on bosse ensemble sur le territoire et puis il m'a donc plus ou moins commandé tout un programme pour la compagnie pour l'implantation vraiment sur le territoire. Donc il y a au programme une date d'épître aux jeunes acteurs dont j'avais déjà parlé sur 48 FM.
Sur 48 FM au micro de Corentin, c'était il y a quelques il y a quelques mois, j'ai réécouté ça hier soir, donc vous pouvez le retrouver sur le site de 48 FM.
Ouais. Donc il y a une date qui est prévue en novembre 18, il y a des ateliers avec des amateurs qui sont prévus. Il y a cette résidence dont on va parler du coup puisque c'est la première phase vraiment d'un projet qui va s'annoncer sur 1 an, 2 ans, peut-être 3 ans, de construction vraiment sur le territoire, avec la population, et puis nous, vraiment, de bosser sur la ruralité, puisque le spectacle, pour l'instant, qui s'appelle « Scène de la vie rurale », mais le titre est encore très provisoire, va parler de ce qui se passe en ruralité, puis on en sait quelque chose en Lozère, quoi.
Voilà. On parlera un petit peu plus du projet actuel et puis même du projet en Lozère, plutôt dans la deuxième partie de l'émission. Okay. On va peut-être essayer de continuer à faire un peu connaissance avec vous trois. Alors l'histoire, justement, je me suis pris des petites notes en réécoutant Corentin hier. Pour vous, c'est au départ Avignon, de la création radiophonique et puis du milieu rural. J'ai un peu tout condensé.
Oui, c'est un petit peu ça. En fait, moi, donc venant de Lozère, j'ai commencé le théâtre à l'époque dans un théâtre qui a fermé, qui s'appelait le théâtre de la Mauvaise Tête à Marvejol, qui a fermé, hélas, trois fois hélas. Puis après, j'ai continué au conservatoire du Puy-en-Velay. Puis après, je suis parti au conservatoire de Besançon, là, donc on s'est rencontrés. Et ensuite, je suis arrivé au conservatoire d'Avignon en cycle professionnel. Et puis là, j'ai rencontré Olivier Pie, avec qui j'ai bossé notamment à la Fabrica, dans la cour d'honneur pour le festival d'Avignon In. Puis je suis parti à Paris faire ma vie de comédien aussi, puis mes expériences. Je bosse toujours avec Radio France sur des fictions radiophoniques. J'ai un agent, Nora Habib, qui s'occupe aussi de me trouver des castings. Et puis moi aussi, j'en cherche de mon côté, donc c'est complémentaire. Donc sur de la télé, sur du cinéma, sur des castings, purs et simples. Et puis, moi, c'est vrai que j'ai vraiment l'envie de m'implanter en Lozère, parce qu'au niveau culturel, il y a toujours beaucoup à faire, dès qu'on trouve les bons partenaires, quoi, voilà, et les bonnes municipalités qui s'engagent. Mais c'était important aussi pour moi de revenir vraiment sur le territoire, là où j'ai grandi, et puis où je connais davantage les problématiques.
Et donc, c'est via votre intervention que les autres sont attirés par la Lozère, c'est ça?
Ah non, alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que Samuel, on en a parlé tout ça, puis il me dit « ce serait bien que tu fasses un spectacle sur la Lozère, ça parlerait vraiment ». Et puis à l'époque, on était avec Sylvain, on était en résidence pour Épître aux jeunes acteurs.
Ouais.
Qu'on allait jouer à Barcelone.
On est allé jouer en juin dernier à Barcelone.
En mars ou avril, oui.
Non, je crois que c'était début juin.
Enfin, c'était...
Ouais. Bon, c'était au printemps.
C'est ça.
C'était
fin du printemps.
Et donc, on me parle avec Samuel, il me dit cette chose-là, et je dis, mais plutôt qu'en fait de faire un spectacle sur la Lozère, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas un spectacle sur la ruralité, en fait? Et pour nous, c'est beaucoup plus simple, parce qu'on va arriver à regrouper toutes les problématiques du milieu rural, qui représente quand même 80% du territoire français.
Et puis en plus, Thomas, Sylvain et moi venons tous les trois, chacun d'un village. Donc c'est vrai que ça permet de nous pouvoir amener chacun nos expériences et puis pouvoir avoir la possibilité éventuellement après que le spectacle aura été créé de le jouer dans d'autres endroits aussi.
Ouais.
Oui, c'est aussi une façon justement d'aller aussi pouvoir à un moment exporter le spectacle.
Mais c'est-à-dire que oui, si on s'était contenté de faire un spectacle uniquement sur la Lozère, on aurait eu peut-être 3-4 dates. Mm-hmm. Là, l'opportunité qu'on a, c'est avec le réseau aussi qu'on amène tous les trois. On peut tourner dans toute la France et puis il y a des vrais partenaires qui sont avec nous. Il y a les scènes croisées, il y a le ciné-théâtre, il y a le 104 à Paris. Il y a quand même des grosses institutions qui nous suivent et qui suivent le travail que l'on mène depuis, en fait, Épître aux jeunes acteurs qu'on a monté en 2016.
Oui, c'est ça, ouais. Et puis d'autres, puisque, par exemple, ce qui serait super, c'est qu'une fois que ce sera dans la boîte, on va dire, et ce serait bien de pouvoir, nous, à travers nos départements, nos départements, donc dans le Jura, par exemple, moi, dans le Jura, je commence aussi à faire mes premières places, donc peut-être aussi l'amener dans le Jura, puisque, pareil, la ruralité... énorme, et dans mon village, on était 500 habitants, donc c'est des lieux, des mouvements culturels qui n'existent plus, et donc c'est important, je pense, aujourd'hui d'en ramener plein pot pour éviter de se concentrer que sur les préfectures ou les capitales pour savoir s'il y a un peu de culture par là-bas, quoi.
Et puis j'oublie aussi quand même un partenaire qui est important, c'est quand même le département de la Lozère, quoi, qui eux sont très sensibles aussi aux questions que les habitants traversent. Donc c'était très important pour nous de les avoir comme soutien et qu'ils s'investissent aussi avec nous. Et puis, on a la municipalité aussi de Saint-Chély-d'Apcher. Et vraiment, il faut saluer, je trouve, le travail de Samuel, parce qu'il fait un travail incroyable, quoi. Avec très peu de moyens, il arrive à faire une programmation gigantesque et offrir à une ville de 4200 habitants des propositions artistiques, cinéma, que ce soit des films de art et essai,
très diversifié,
blockbuster. Il arrive à tout faire avec quasiment rien, quoi.
Qu'on voit pas forcément en plus dans des villes de 20 000 habitants, ouais. Et lui avec un petit...
Trois fois rien, il arrive vraiment... c'est incroyable. Bravo. Donc il faut donner plus de moyens.
Donc là, vous êtes tous retrouvés au conservatoire. C'est ça, c'est, plus, ouais. C'est quoi, c'est du classique que vous avez fait, c'est moderne, c'est tout, c'est...
En fait, au Conservatoire de Besançon, la particularité, c'était que, donc c'était dirigé à l'époque par un monsieur qui s'appelle Jean-Marc Quillet, qui lui était très sensible au théâtre musical. Donc on a monté un cabaret Bobby Lapointe, dans lequel on figurait tous les trois, et puis on a des cours de chant, on a des cours de danse, on a aussi des cours de théâtre, d'interprétation pure. Après, chaque conservatoire a vraiment sa spécificité. Au Puy-en-Velay où j'étais, on avait du chant lyrique, ce qu'on avait assez peu finalement à Besançon. À Avignon, on avait des cours du théâtre du mouvement avec Sylvia Cimino, et puis c'était vraiment particulier à Avignon. Mais chaque conservatoire, c'est pour ça que c'est important sur les gens qui veulent devenir acteurs, qu'ils choisissent vraiment le conservatoire qui, eux, leur plaît le plus, quoi. Et là où ils vont y trouver finalement ce qu'ils cherchent.
Non, et puis là où on est content, c'est que du coup, quand on s'est rencontrés, c'était en 2011-2012, on a passé une année ensemble. Et
Après, chacun, vous êtes parti.
Voilà, chacun, on est parti dans des directions, dans des, comment dire, des horizons différents, même si on est resté dans le théâtre. Thomas et Sylvain sont restés plutôt ensemble. Et moi, j'avais du coup mon école qui durait 3 ans. Et on s'est recroisés pendant mes 3 ans en se disant « Ah, ça serait bien qu'une fois que tu sortes, qu'on se retrouve. » Et là, en l'occurrence, ça y est, avril 2018, nous y sommes. Et on est très heureux parce que du coup, au-delà de cette thématique de la ruralité qui nous anime tous les trois, mais de manière limite, j'ai envie de dire c'est vraiment quelque chose qui nous importe. Y a aussi cette volonté de se retrouver entre copains et de rejouer, de se retrouver sur le plateau ensemble, quoi, qui est très, très agréable.
Avec nos trois parcours complètement différents. Toi, Valentin, t'as un solo aussi, t'as un seul en scène. Sylvain, toi, t'as fait aussi des opéras avec Olivier Py. Moi, je fais de la radio. Enfin, vraiment, on arrive à cumuler trois expériences complètement différentes et de créer entre copains. Ben, je trouve que c'est génial. On a vraiment commencé la résidence, quand même, il faut dire. On a commencé hier à 9h du matin. Donc, c'est là. On attaque vraiment la première semaine. Mais depuis hier, on n'arrête pas.
Ça fuse.
Ça fuse.
Là, on vous coupe dans l'élan en vous faisant venir jusqu'à nous aujourd'hui.
C'est pas grave.
Bon, on en parlera un petit peu plus de ce projet juste après la coupure musicale. Mais d'abord, ça va être la chronique d'Éric.
Loz Actuali.
Allez Eric, parlons d'IA, un sujet à la mode.
Voilà, notre cher Jupiter qui a fait de l'intelligence artificielle l'un des enjeux nationaux. Mais l'intelligence artificielle, Quesaco. Alors, c'est comme l'intelligence humaine, mais artificielle. Alors, ce sont des algorithmes qui testent de reproduire l'intelligence de l'homme. Alors, quand les romans de science-fiction nous prédisent l'avenir, cela fait toujours un peu froid dans le dos. Mais quand ce sont des essais scientifiques qui nous en parlent, doit-on être pris de panique? L'avènement du monde des robots, l'entrée des assistants vocaux dans nos salons, ouvre la porte à de multiples peurs et fantasmes. Cela concerne nos affects, nos désirs, nos amitiés, nos relations sociales, parfois même notre sexualité, nos existences qui sont de plus en plus connectées et tissées au réseau. Alors aujourd'hui, les regards se tournent vers ces logiciels, susceptibles d'agir par eux-mêmes. Notre fantasme le plus étrange, c'est de se dire « Si les robots commencent à parler entre eux, ils vont commencer à se raconter des histoires. » Et le problème, ce n'est pas forcément de savoir si les machines peuvent devenir intelligentes ou créer de l'imaginaire, mais bien de savoir quelle sera la relation entre nous et les machines. Que faire, par exemple, de ces images sorties de l'imagination des machines? En nourrissant une machine avec beaucoup d'images, la machine arrive à faire d'autres images. Elle apprend à créer de la ressemblance. Par exemple, Google a sorti des images de la machine Deep Dream. C'est comme un trip sous LSD. Enfin, je suppose, je n'ai pas encore jamais essayé le LSD. Bon, après, si on y pense, ceux qui ont fondé la Silicon Valley, c'est la contre-culture américaine des 70s. Ce sont les hippies. Donc le psychédélique et le LSD, c'est tout bon, quoi. Mais c'est vrai que c'est un peu fou, ces logiciels autonomes. En plus, la plupart d'entre nous n'y comprennent rien. Donc on peut se poser la question, qu'est-ce que va devenir dans le futur nos actes connectés d'aujourd'hui? Quel sera l'impact de l'IA sur le travail, la santé, les transports, la justice, les loisirs ou les libertés publiques? Va-t-on vers un futur sans âme et sans émotion? Avec les voitures autonomes, on est en train d'inventer nos fantasmes des années 80-90. Vous vous souvenez de K2000 avec la voiture qui s'appelait Kit et qui avait un humour assez piquant? Ou encore la voiture Marty McFly pour voyager dans le temps? Bon, ça c'est pas encore pour un peu plus tard. Mais Kit, c'est déjà aujourd'hui. Enfin, sauf pour l'humour. parce qu'il n'existe pas encore un logiciel capable d'inventer lui-même ses propres blagues. La voiture autonome est ainsi en train de développer de plus en plus, même si la technologie a encore des failles. Elle peut ainsi parfois confondre une grosse pierre avec un sac, ou ne pas comprendre des panneaux de signalisation, à croire que c'est une femme qui a écrit l'algorithme.
Oh bah bravo.
Super.
Bravo. Mais autant ce n'est pas grave si l'intelligence artificielle perd plus de 10 000 fois ou 100 000 fois de parties d'échecs avant d'y arriver, autant c'est plus embêtant si c'est pour apprendre à conduire. Quitte à besoin de se planter plus de 100 000 fois dans un platane, ce n'est bon ni pour les passagers, ni pour l'écologie. Je plaisantais bien sûr quand j'évoquais l'algorithme féminin, même si c'est aussi un des problèmes, c'est le manque de diversité culturelle, sociale et de genre des programmeurs. On l'a aussi un peu aujourd'hui sur le plateau. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, ça va être peut-être trop réservé aux hommes, au risque de ne s'adresser qu'aux hommes. Et en matière culturelle, je me souviens d'une émission de La Lorgnette qui expliquait toute la codification pour écrire un roman à l'eau de rose. Qu'est-ce qui empêcherait demain un logiciel de créer un livre avec le fameux premier baiser à la page 47 et la première scène de sexe à la page 69 ? Surtout que les profils des personnages sont souvent un peu les mêmes. Musso n'a qu'à bien se tenir. Et en ce qui concerne la musique, c'est déjà fait. En partie avec la Flow Machine. Donc ça, c'était un extrait d'un morceau de composé en partie par Stromae et donc cette Flow Machine. Donc déjà, ça commence déjà à rentrer dans les studios d'enregistrement. Ouais.
Il a fait ça quand, en quelle année ?
Il a fait ça l'année dernière, oui. Donc là, il y a tout un album fait avec un collectif et donc Stromae a dit en gros les musiques qu'il voulait, enfin le genre de musique. Donc là, il s'est basé sur la musique capverdienne et après, il a fait venir une chanteuse qui a mis un morceau et en fait, les arrangements après derrière ont tous été faits par la machine. Après, c'est à lui d'accepter ou non les arrangements qui sont faits par la machine. Mais c'est lui qui a donné les idées qu'il avait envie de donner pour tout ça.
Je me demande si on n'y en avait pas des... Alors, pas des libres de droit, mais si on peut tester sur Internet. Parce qu'avec, justement, Corentin et Ludo, on avait su que ça existait. On avait essayé de faire des trucs. Et c'est vrai que, bah, en fait, on peut... plus besoin d'être musicien pour faire de la musique, quoi. C'est formidable.
Et là, on est en radio, donc on pourrait se demander aussi pour les chroniqueurs ou pour les journalistes. Donc ça existe déjà dans la presse écrite, justement. Le New York Times utilise des robots pour écrire certains papiers, par exemple des papiers qui ennuient les journalistes, comme juste des résultats d'élections. Alors, c'est pas pour l'analyse des résultats, mais c'est pour donner
pas
les
que
résultats.
Le New York.
Oui, il y a pas que le New York Times. C'est un des premiers à avoir.
Je vais y arriver aujourd'hui. C'est aussi, ça marche aussi en France. Hein. Le Monde l'a fait pour les dernières salves d'élections. Hein.
Mais en radio, on n'a pas encore trouvé non plus un robot qui est capable de mettre les respirations quand il faut et d'utiliser le ton.
Et d'envoyer les virgules au bon moment non plus.
Il y a encore du boulot, ça va.
Donc là, c'est vrai que voilà, on peut s'inquiéter encore. Certains scientifiques s'inquiètent justement de faire apprendre aux machines à apprendre par elles-mêmes. Après, on a encore un peu de temps, il y a un peu de marge avant qu'une cafetière prenne conscience d'elle-même. Ou de voir une armée de grippins et de presse-agrumes électroniques nous foncer dessus. C'est peut-être pas encore pour tout de suite. Mais voilà, moi je me pose encore beaucoup de questions sur le sujet. Alors j'ai demandé son avis à Siri, mais elle est restée assez évasive dans sa réponse.
Ouais, ce qu'il y a, c'est que Siri, c'est quand même la moins évoluée de toutes. Hein. Enfin, si on
c'est
peut,
pour ça alors.
Ouais, ouais. Enfin, essaye avec Google Home, tu verras, t'auras déjà plus de réponses.
Donc, je demanderai à Google Home.
Bon, ben merci, merci. Je sais pas, vous avez des réactions à cette chronique, ça vous.
Bah, ça va être des questions qu'on va aborder aussi sûrement. C'est jusqu'à quel point on va remplacer l'humain, quoi. Ouais. Jusqu'à quel moment la machine va prendre le pas. On le voit déjà aussi sur les commerces, quoi. Il y a déjà moins de caissières, c'est devenu des caisses automatiques. Puis tout d'un coup, on va commencer à remplacer tel autre corps de métier parce que c'est possible. Dans les usines, tout devient automatisé, donc plus besoin d'ouvriers. Jusqu'à quand, en fait, la machine va prendre le pas ?
Puis la voiture sans chauffeur, enfin, c'est quand même assez fou, quoi. Quelle est l'utilité ? J'espère qu'il y a quand même. Du coup, on va racheter les vieilles voitures, puisqu'il y aura toujours le plaisir, je pense, de la conduite pour certains. Et les voitures sans volant ou qui doublent quand on veut, je trouve ça complètement dingue.
Il y en a déjà qui se garent toutes seules, non ?
Oui, déjà.
Ouais.
Non, c'est...
Il y a des robots qui parlent aux personnes âgées dans les maisons de retraite pour les occuper.
Ouais, mais ça, moi, je trouve ça, là, je trouve qu'il y a un gros problème d'humanité, quoi. Parce que si les personnes âgées, il y a déjà plus personne pour aller les voir et qu'il n'y ait plus de lien entre générations, là, moi, déjà, ça me pose déjà plus question, quoi.
Mais point positif, je ne savais pas que Stromae avait recomposé depuis 2014 et ça me fait vachement plaisir. Enfin, 2013.
Si, elle revient, hein. D'ailleurs, il était à la télé en fin de semaine dernière et il revient. Il fait son retour là, ces temps-ci. Donc,
c'est super, c'est une très belle journée.
Bien, allez, je vous propose une première coupure musicale. Ça va nous permettre de nous remettre un peu de nos émotions de cette première partie où tout n'était pas très très calé, en tous les cas pour moi. Vous nous avez choisi un premier choix musical.
Ouais.
Alors dites-nous tout.
Miller Swing de Django Reinhardt.
Allez, c'est parti.
Sans machine.
Et voilà, deuxième partie de ce Loz Actuali avec toujours la compagnie de la joie errante. Pour au moins, déjà, on va commencer par parler de ce projet Scène de la vie rurale. Vous en avez déjà un petit peu évoqué quelques pistes. Alors, vous nous avez dit vraiment que cette question de la ruralité, elle était importante pour vous finalement. Donc là, vous allez construire un spectacle. Qu'est-ce qui Qu'est-ce que vous avez envie de retransmettre finalement de cette ruralité dans ce travail que vous engagez?
Déjà, c'est marrant parce qu'on a commencé par ça hier matin en se posant les questions de qu'est-ce qu'on cherche, non, qu'est-ce qu'on veut.
Ça fait des mois qu'on s'envoie aussi ça fait des mois qu'on s'envoie des articles, enfin qu'on échange avant cette session là quand même.
Qu'on fait un travail de ce qu'on appelle de dramaturgie pour vraiment mettre en commun et commencer à parler la même langue. Mais c'est vrai que c'est depuis hier qu'on a vraiment posé les choses à plat en disant qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'on veut, se dire que ce qu'on veut, ce n'est absolument pas faire une caricature ou une parodie de la ruralité, c'est pas ça du tout. On n'est pas chez les Baudins ou tout ça, c'est pas ça. On veut vraiment parler du trouble qu'il peut y avoir, de la difficulté de vivre en milieu rural. Fatalement, on peut pas passer à côté des questions agricoles et puis du métier d'agriculteur. Mais parler aussi.
La joie perdue, qui par exemple toutes ces fêtes. Les fêtes qui disparaissent parce que avec les nouvelles normes qui existent maintenant dans les salles des fêtes, on peut plus accueillir à cause des sécurités à avoir, on peut plus accueillir 80 personnes. On n'a plus le droit de. Il y a 40 ans, on avait le droit encore de faire une sorte de méchoui, mais maintenant c'est interdit de tuer une bête chez soi. Et n'empêche que toutes ces fêtes là ont disparu et il y a plus trop d'échanges. Et maintenant, c'est des citadins qui viennent s'installer dans le monde rural et du coup. Maintenant, on est comme à Paris ou dans des autres villes et on connaît son voisin parce qu'on a un dégât des eaux en commun, quoi. Et c'est tout. Et c'est vachement dommage, je trouve.
Mais là, donc tout à l'heure, vous nous avez dit que vous étiez tous à la base acteurs ou metteurs en scène.
Oui.
Donc c'est un projet d'écriture aussi. En fait, la première fois que vous écrivez ou...
Alors c'est la première fois qu'on écrit en commun à trois sur un projet collectif. L'avantage, c'est que donc comme on vient chacun d'un milieu rural, moi mes parents sont paysans sur le cause de Sauveterre, Sylvain, tes parents sont maraîchers.
Ils ont fait du maraîchage bio pendant 30 ans et puis commerçants aussi évidemment par la suite.
Et pas du tout les miens.
Voilà, mais on l'a quand même gardé avec nous.
Et merci.
tu reviendras. Et donc c'est vraiment en fait écrire avec des problématiques communes mais à la fois très différentes. Par exemple, les parents de Sylvain sont dans le bio. Les miens, pas du tout. À quel moment, tout d'un coup, on prend un carrefour
Et puis la ruralité à Beaune, c'est pas la même que sur le Causse, quoi.
Ah ouais, pas du tout, non. Pas. Non,
c'est pas le même niveau.
C'est pas le même niveau. Les problématiques, il y en a certaines qui se ressemblent, d'autres pas du tout. Et puis, je trouve qu'on est assez, on est concerné, en fait, par notre vécu, par comment nos parents vivent, comment est-ce qu'ils ont pu vivre, de voir au fur et à mesure des gens qui disparaissent, des gens qui partent aussi de Lozère ou de la ruralité parce qu'ils se rendent compte que par exemple pour se soigner il faut partir à Rodez, il faut partir à Clermont, il faut partir à Montpellier parce que il y a des services qui n'existent pas en Lozère ou enfin toutes ces problématiques là aussi et qui rejoignent d'une certaine façon l'attractivité du territoire. Toutes ces questions on se les pose, mais ce qui fait la richesse de l'écriture c'est qu'on a trois expériences complètement différentes.
Et puis personnellement moi une des choses que j'appréhendais le plus c'était évidemment d'aller dans les clichés ou dans les choses qu'on avait déjà vues ou entendues et tout ça. Et ce qui me rassure, et c'est ça qui est trop bien quand on se met enfin au travail, c'est que on évacue ces choses-là et on rentre dans des choses plus précises et plus complexes, c'est qu'on peut amener nos propres expériences. Et ça, je me rends compte depuis... Vous demandiez si on avait aussi écrit d'autres choses. Moi, j'ai aussi écrit un seul en scène dans lequel je parle énormément de moi. Et au début, j'étais vachement préoccupé à... Mais ça va pas intéresser les gens, ça parle qu'à moi et tout. En fait, je me suis rendu compte, et je le répète quasiment tout le temps que je parle de mon travail, c'est vraiment ce truc de... Plus on va parler de soi et plus, bam, ça va exploser et on va aller parler de tout le monde, en fait. Donc c'est vrai que même si j'ai jamais mis le pied en Lozère, enfin si ce n'est la dernière fois en octobre quand j'étais venu aider mes deux acolytes sur leur projet... mis à part ça, je ne suis jamais venu ici et pourtant je suis sûr que on en a d'ailleurs parlé hier, Thomas comme moi, on a pris tous les deux des bus très très tôt le matin parce qu'il y a 5h30 le matin pour aller au lycée et ça n'empêche pas, bref il y a plein de points communs et je suis content d'enfin arriver enfin dans ce travail pour pouvoir aller dans des choses un peu plus précises, quoi.
Après ce que je trouve très important aussi, c'est que tous les trois on a une telle exigence. Et on a tellement un désir de faire du théâtre populaire qui soit accessible à tous, de nouveau en fait renouer avec une fête, avec tout le monde, de pouvoir discuter à la fin, de plus être dans ce qu'on peut avoir des fois à Paris, du théâtre où il faut forcément une tête d'affiche, où il y a du vedettariat, on n'est pas du tout là-dedans. on a, je trouve, tous les trois des beaux parcours, mais on note ce qui nous anime, l'envie profonde qu'on a, c'est d'aller aussi à la rencontre des gens, de construire avec eux, d'être à leur écoute, de rencontrer, on va rencontrer cette semaine aussi, que ce soit des agriculteurs, des agricultrices, vraiment, on va à la rencontre des gens et on a suffisamment, je pense, d'éthique et de respect pour la profession et pour les professions et pour l'humain qu'on peut pas faire n'importe quoi. Et donc, dans ce qu'on veut faire, je trouve que ça respire aussi vraiment. Quand bien même, par exemple, tu disais, Valentin, que toi, tes parents ne sont pas agriculteurs, il y a un vrai intérêt. On a passé déjà tout hier, puis de nouveau ce matin, à mettre des idées en commun, de savoir qu'est-ce qu'on peut présenter, comment est-ce qu'on peut aborder les choses sans blesser, sans heurter. Mais en même temps, il y a des choses où fatalement, il faut passer dessus sans que ça soit trop dramatique, je crois. Mais on ne peut pas passer à côté de certaines questions. On ne peut pas passer à côté du fait que, par exemple, l'agriculture est pilotée par des personnes qui ne viennent jamais dans les fermes. Donc, c'est peut-être 20-25 personnes qui envoient des normes et tout d'un coup, on dit « vous respectez ça ». Et ce sont finalement les personnes, les producteurs qui sont en bas de l'échelle qui doivent assumer ces directives tout d'un coup. On ne peut pas parler, on peut pas passer à côté du problème aussi, des fois entre villages ou à 3 km, tout d'un coup, c'est un étranger, quoi. Et moi, je l'ai eu aussi... assez tôt, j'habitais sur le Cos, déjà Chanac, c'était pas le même département, quoi, presque, c'était même pas le même pays. On peut pas passer à côté du suicide des agriculteurs aussi, chaque jour, tous les deux jours, on peut pas, la situation est beaucoup trop alarmante. Après, ce qu'on veut aussi souligner, c'est qu'il y a l'agriculture en ruralité, mais il n'y a pas que l'agriculture, il y a aussi d'autres problématiques qui sont propres à...
Les mairies, par exemple, ouais. les pauvres petits maires de petites communes qui ont de moins en moins d'aide et qui ont du souci aussi. Il y en a même certains aussi qui se suicident aussi, comme les agriculteurs. Mais bon, ça va pas être là, c'est vrai que c'est un peu noir, mais, ouais. Mais on va mettre aussi un peu de joie aussi là-dedans.
Voilà. Oui, parce qu'au final, dans tout ce que vous disiez un petit peu de ce portrait, c'est intéressant de l'entendre justement avec votre regard d'artiste et puis venu aussi d'autres horizons, enfin en ayant eu d'autres regards aussi. Mais finalement, vous avez une vision qui est un peu, qui est finalement vachement dans le négatif sur la réalité, non?
Alors oui,
moi je crois.
Enfin, vous disiez un petit peu.
Je crois pas parce que si justement on fait ce spectacle et si on veut venir créer en Lozère, c'est parce qu'on croit qu'il y a une vraie force dans la ruralité. Je pense que si on avait un regard négatif et déprimant sur ce qui se passe en ruralité, déjà on viendrait pas là, quoi.
Après, on peut pas s'enlever. Enfin, il y a aussi la réalité. Elle est là aussi. Donc, malheureusement, oui, il y a des choses qui sont un petit peu négatives, quoi. Mais après, comment aussi, on va dire, mettre un peu de joie dedans, et puis comment arriver aussi à en faire aussi un peu rire de temps en temps, quand même.
C'est pour ça qu'on a eu déjà la question, on voulait faire un spectacle comique ou tragique. Et en fait, j'ai répondu, mais on ne sait pas, puisque nous sommes en résidence et que l'on crée. Et en même temps, pour moi, les deux sont indissociables. On ne peut pas faire un spectacle juste comique en parlant de la ruralité et juste dramatique en parlant de la ruralité. Les deux sont intimement liés. Et il y a des moments sublimes chez les agriculteurs parce que c'est une passion et que je suis très admiratif de tous les paysans qui luttent sans arrêt. Il y a une vraie force, il y a un caractère et j'en suis très admiratif. Et en même temps, il y a tout d'un coup de la jalousie ou il y a tout d'un coup un problème parce que le voisin a déposé un sac de graines dans le champ pour attirer les sangliers. Donc, et tout ça, finalement, avec un peu de recul, c'est quand même assez drôle, quoi. On crée des problèmes pour des fois trois fois rien.
Et vous avez quand même déjà une idée de ce que vous voulez faire, c'est-à-dire un peu sur le cadre, c'est-à-dire ce serait une seule histoire, trois personnes dans la ruralité ou
pour l'instant, non. Ce qu'on s'est plutôt dit, ça date de ce matin, hein, donc c'est encore très frais, mais ce qu'on s'est dit, ça serait plutôt des tableaux à la suite les uns des autres, mais qu'il y aurait fatalement, ouais, comédie, tragédie, et qu'il y aurait des nuances. On va pas pouvoir ce que vous soulignez, on peut pas faire une heure dix de spectacle où tout est plombant. C'est pas du tout. On veut renouer aussi avec ce que tu disais Sylvain, avec une vraie tradition populaire, avec ce que faisait Villars, ce que faisait Dasté. On est dans cette veine là, je crois. Donc on ne peut pas arriver et tout plomber, c'est pas possible.
Non, et puis nous ce qui nous intéresse avec cet exercice de la sortie de résidence, qui n'est pas une représentation en soi, c'est vraiment une première étape et on est ravis d'avoir cette possibilité-là, de pouvoir déjà tester ce que ça donne vis-à-vis des réactions du public, mais aussi nous, comment on va se sentir dedans. On a envie de jouer là-dessus, sur le fait que... Bonjour, je suis Thomas Pouget, bonjour, je suis Sylvain Lecomte et bonjour, je suis Valentin Clerc. Je viens d'un village où il y a tant d'habitants et tout ça, de partir de ce contexte hyper concret, tel qu'on le fait ce matin, de parler vraiment de nos vies et doucement basculer vers la fiction et puis se permettre justement d'aller comment dire, faire une, tisser une grande toile en passant par plein de sujets, parce que c'est ça qui est trop bien justement ce 20 avril, c'est qu'il va y avoir la possibilité de vraiment... lâcher comment dire un grand brouillon comme ça qu'on va arranger ici et là, qu'on va organiser ici et là, et justement pour voir justement là où comment dire, pour pas être frustré quoi, tenter le plus de choses pour voir justement ce qui aura le plus son sens dans le projet.
Et puis vous aurez la réaction aussi
du public
et les retours
voilà,
après.
Donc après, on fait un retour après avec le spectacle, on boit un verre avec les gens pour voir comment eux l'ont ressenti.
Comme on a aussi l'intention de faire beaucoup de témoignages et tout ça, c'est vrai que ce qui serait super et qu'on mette en place, c'est d'éventuellement les gens à qui on a demandé les témoignages viennent nous voir et qu'après on retourne discuter avec eux. Ça, ce serait vraiment super dans le côté un peu enquête sur le terrain et puis suivi, création sur le terrain.
Mais
tout ça.
C'est assez délicat d'avoir un cadre parce que c'est une création, quoi. Donc on a tout à créer, mais c'est hyper excitant.
Et vous avez 10 jours avant ce 20 avril, donc cette présentation, c'est quoi le plan de travail pour arriver jusque là-bas?
Là, on a posé tous les os du corps du spectacle, et puis là, on est en train de commencer de remettre ce grand puzzle d'idées. Et on va en faire un vrai corps, voilà. On commence.
Et alors, vous travaillez sur scène, vous travaillez autour d'une table, vous travaillez.
Samuel, donc, qui nous accueille en résidence, on a 2 semaines. On a une première semaine. Moi, j'avais demandé à ce qu'on ait une semaine, ce qu'on appelle du travail à la table. Donc, on fait du travail de recherche, on regarde des films. Hier soir, on s'est regardé Cache Investigation avec Élise Lucet sur Lactalis. On lit des bouquins, on lit les journaux, que ce soit Lozère Nouvelle, que ce soit Midi Libre, on écoute 48 FM pour savoir aussi vraiment au cœur du département ce qui se passe et puis des ruralités. Et la deuxième semaine, ce qui va se passer, c'est qu'on est accueilli par le Théâtre du Granit, dirigé par Chantal Catla, qu'on remercie. Et là, vraiment, on va essayer tout ce qu'on a fait la première semaine. Donc, là, ce qu'on s'est fait hier, c'est qu'on a fait une matinée sur qu'est-ce qu'on cherche et on avance dans la même direction. L'après-midi, on s'est fait un travail de dramaturgie, d'échange, de visionnage, de cache-investigation, de discussion de comment est-ce qu'on peut monter. Ce matin, on a commencé par se répertorier toutes les idées qu'on avait de scènes qu'on pouvait aborder. On a commencé à faire ce qu'on a plus ou moins déroulé de scènes possibles, travailler sur les différentes nuances. Si on commence par une présentation, est-ce que derrière on met quelque chose de plus grave? Est-ce qu'on met des anecdotes personnelles? Comment est-ce qu'on tisse tout ça? Cet après-midi, rebelote. Et puis après, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, on a des rendez-vous.
Vous allez vous nourrir aussi du territoire.
Oui, tout à fait.
Bon, ben voilà, le rendez-vous donc est pris pour vendredi 20 avril à 20h30 au théâtre Gérard Boulet, donc au rond-point de l'usine à Saint-Chély-d'Apcher.
Il y a un verre offert, donc devrait y avoir du monde.
Ouais, c'est gratuit.
Peut-être pour terminer cette partie de discussion, peut-être parler de vos autres projets, de comment ils vivent, où ils en sont, etc.
Ils vivent très très bien. Ils vivent très très bien puisque alors du coup c'est la première fois que je l'annonce. Alors vous voyez, 48 FM exclusivité.
pas le jingle exclusivité.
Oh non.
Avec
exclusivité.
Donc, merci Julien. On part jouer à Avignon avec Sylvain et puis 3 jeunes acteurs. Cette fois dans une salle de 90 places, ça sera au Pandora et on jouera à 16h45. Ça dure 1 heure et puis moi je joue un autre spectacle à Avignon qui s'appelle Les Bourgeois par une compagnie en Indre-et-Loire qui s'appelle la compagnie 7 épées.
C'est quoi comme genre?
C'est Fédo. C'est 2 pièces de Fédo mais qu'on a mis en une seule et même pièce. Donc c'est à Doubs Boulevard. Donc c'est plutôt très chouette et ça on joue à 12h40 à la Luna.
Et puis 3 jeunes acteurs, c'est une comédie poétique.
Oui, tout à fait. Ce dont j'avais parlé du coup la fin dernière, allez voir les podcasts. Et puis ensuite, moi, j'ai un téléfilm qui doit sortir dans l'année, qui a été réalisé par Marion Laine. Il y a un autre projet, un gros projet qui est en train de se mettre en place aussi avec la compagnie et puis avec la Comcom de Saint-Chély-d'Apcher, mais pour l'instant on a le droit de rien dire parce que c'est encore dans les cartons, mais ça peut ramener beaucoup de monde et une belle attractivité sur le territoire.
On en reparlera dans
ouais,
ce cas-là.
Bon,
bah, un jingle.
Ah oui, s'il vous plaît, parce que là, mon jingle, ça allait pas.
Ah, merci.
Non, je plaisante, bien sûr. Je sais pas quoi, Valentin, toi, tu continues à tourner ton solo.
Le solo dont je vous parlais tout à l'heure, qui s'appelle, j'adore les titres longs, il s'appelle Et le loup continue de courir dans les forêts d'Alaska. Un solo, voilà, d'une heure 20-25 que j'ai écrit et que je tourne depuis deux ans.
Là, il y aura un vrai sujet loup, hein, pour vous, hein. Pour voilà. Votre création, là.
Voilà.
Oui, il y est.
Le loup, je pense que.
Il est dans les problématiques qu'on a soulevées ce matin.
Dans les forêts de Lozère. Peut aussi totalement se faire. Voilà, où je vais avoir des dates ici et là et encore un peu plus dans le futur, j'espère, et je vais tout faire pour. Et puis en juin, je vais commencer. Alors, moi aussi, j'ai une exclue.
Oh,
moi aussi, j'ai une exclue. J'ai une exclue sur le titre. Ça va être.
Sur 48 FM.
On va pas exploser l'audience. C'est qu'au mois de juin, je vais. Alors, ça, c'est pas vraiment une exclue, c'est plus le titre qui est une exclue. Oh. C'est un projet que je vais avoir la chance de faire avec Pierre Maillet, qui est un acteur-metteur en scène de la compagnie des Lucioles, avec qui j'ai eu le plaisir de travailler pendant mes 3 ans à Saint-Etienne, puisqu'il était le parrain de ma promotion. Et qui va être un projet où on va adapter 3 films de Fassbinder. Rainer Fassbinder, le dramaturge, metteur en scène, réalisateur allemand qui a tout fait. Et donc le titre va être 3 films qui vont être adaptés. Et le titre va être Le bonheur n'est pas toujours drôle. Voilà, qui est une phrase qui reprend un peu dans tous ces films. Donc on va avoir 10 jours sur juin. Et après on va vraiment prendre tout décembre pour le répéter jusqu'à janvier. Et ça va tourner plutôt l'année prochaine. Voilà, et je crois que le plus proche d'ici pour l'instant, c'est Nîmes. Voilà.
Et quand Saint-Etienne, c'est pas très loin, hein, non
c'est plus.
Plus
proche. Saint-Etienne est plus proche de la Lozère que.
Ouais, ça dépend. Ça peut être plus accessible.
Ouais, c'est ça.
Alors,
ça
dépend de la saison. Lâchez vos commentaires. Dites ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que Saint-Etienne est plus proche?
Hashtag Saint-Etienne, hashtag Nîmes.
Quand on fait
hashtag
Los Actuels. Quand on fait un spectacle sur plusieurs dates, qui est personnel, qu'on a écrit soi-même, est-ce qu'on l'écriture est définitive ou est-ce qu'on arrange toujours quelque chose?
On modifie toujours quelque chose.
Il est vivant?
Oui. Et c'est ça qui est vraiment super, c'est que je vais entendre des choses la journée et je vais complètement pouvoir les insérer dans le spectacle. Et puis, comme je dis pas que c'est un one-man show parce que je suis pas dans de la blague toutes les 5 secondes, mais en même temps, voilà, c'est plutôt un monologue de théâtre, mais avec des codes du stand-up, à savoir de l'interactivité avec le public, de l'adresse publique sans arrêt, un registre plutôt comique, il est vrai, mais du coup, interactivité veut dire. Non, c'est pas vraiment interactivité, mais comme je m'adresse sans arrêt au public avec des fois des questions, des fois les gens me répondent. Et du coup, ça m'oblige à improviser, ça m'oblige à me mettre au diapason avec le public avec lequel je suis, parce qu'en fait, je joue dans tout type de lieux. Et c'est en ça où on se retrouve dans ce projet-là, c'est que j'ai joué dans énormément de foyers ruraux aussi en Côte d'Or, et avec plein de publics qui n'étaient pas plus ou moins habitués au spectacle. Et c'est super, parce qu'après, j'y suis retourné l'année d'après, et ils étaient plus attentifs. Enfin, c'est génial, en fait, de voir comment. Une fidélité peut s'installer en fait, et j'ai beaucoup d'espoir en ça, et c'est super quand des gens arrivent après le spectacle en disant mais j'ai pas l'habitude moi de donner mes impressions, j'y connais pas grand chose au théâtre. Tu dis mais non, mais c'est bon, t'es humain, tu sais, t'as des sentiments et tout ça, et c'est pour ça que ce projet m'intéresse d'autant plus, le projet sur lequel nous sommes.
Parce qu'on veut continuer aussi ce que tu racontais, justement l'expérience que t'as, on parlait des 3 expériences différentes. C'est génial, on veut continuer à garder ce rapport-là aussi avec le public, de briser complètement le 4e mur, donc pouvoir s'adresser à eux, ce qu'ils nous répondent, et jouer avec ça, être hyper à l'écoute, ça demande une capacité d'improvisation assez ouf, mais c'est génial. Quoi.
Ne disons
génial.
Pas tout.
Non.
Un peu de suspense pour le 20.
Voilà, ouais. rendez-vous le 20 avril. Vous restez avec nous, évidemment, puisque il reste encore plein de choses à découvrir. Vous allez passer par le portrait chinois dans quelques temps. Tout de suite, Julia, pour parler musique.
Loz Actuali.
Allez, on poursuit, et donc une chronique musicale, Julia.
Oui, alors moi j'ai beaucoup tourné cette chronique dans ma tête, hein, c'est toujours un peu compliqué pour moi. Je me suis dit, pour une fois qu'on me donne quartier libre sur 48 FM, il faut vraiment que je parle de choses qui me tiennent à cœur. C'est toujours un peu compliqué, donc moi j'ai voulu parler au début d'éducation populaire, mais en 5 minutes c'est un peu impossible, trop de choses à dire, trop de choses à lire. Du coup, je suis partie sur Kaamelott, sur le burn-out, bien que le burn-out ne soit pas quelque chose qui me tienne à cœur, mais je pense que c'est quand même important, sur l'effet du sourire sur la santé. J'ai même été chercher du côté des journées internationales de l'ONU et de l'UNESCO, donc vous apprendrez qu'aujourd'hui, ce n'est la journée internationale de rien du tout.
Merci. Voilà.
Enfin bref, maintenant que je vous ai dit de quoi je n'allais pas parler, je vais vous dire de quoi je vais parler. Donc vendredi dernier, en fait, j'ai été faire un petit aller-retour à Toulouse, au Métronome, pour voir un concert. Donc c'était la release party de Davy Reed qui présentait son nouvel album Raga Libre avec ses deux acolytes, donc Clément et Otam. Alors qui est ce Davy Reed? C'est un jeune homme qui est né en 1989 à Amsterdam. C'est l'ex-leader du groupe de reggae français toulousain d'ailleurs, The Banyans. Donc ils avaient déjà réalisé deux albums studio. Donc voilà, ce qu'on entend, c'est le morceau éponyme, donc Raga Libre. Donc voilà, ils avaient déjà pas mal tourné sur des grands festivals européens, donc Reggae Sunscar, Rototom Sunsplash, etc. Et donc l'aventure Banyan s'est arrêtée d'un commun accord en 2016, et Davy s'est mis à tourner donc sous le nom de Davy Reed et pas Davy Red comme certains le pensent, et il n'aime pas du tout ça. Voilà, ça l'agace assez. Donc en mai 2017, il a sorti son premier album 100% autoproduit, qui est intitulé Essence of Life, qui avait déjà bien marché. Donc là, on le retrouvait vendredi au Métronome après un voyage à Cuba pour nous présenter son nouvel album, donc Raga Libre. Donc c'est un concept pas inédit mais assez original. Donc c'est une fusion entre du hip-hop, du reggae, de la musique cubaine.
On l'entend un peu là derrière.
Oui, on l'entend un petit peu. Et donc c'est un album qui a été enregistré entre la France et Cuba. Donc, et il a invité plusieurs étoiles montantes du rap de la Havane, et c'est un super cocktail. Donc personnellement, moi j'y suis allée un peu par hasard pour suivre mon frère, à qui je fais un petit coucou puisqu'il écoute en ce moment. Voilà, lui et puis sa copine qui connaissent bien Davy Reed et qui le suivent un peu dans tout ce qu'il fait. Donc il m'en avait parlé un petit peu, donc là je me suis dit pourquoi pas. Et j'ai emmené moi deux amis qui sont pas spécialement branchés sur ce genre de son à la base. Mais à la fin du concert, il a fait l'unanimité et voilà, on avait tous le smile. Il a une super présence sur scène, un flow super. Il a des textes qui donnent du courage, de l'énergie. Ils sont doux, poignants, philosophiques, tout ce que tu veux. Voilà. Et donc, c'est vrai que c'est un mélange de plusieurs influences qui... Ouais, il y a des moments où tu vas être un petit peu posé dans le concert à juste écouter les paroles. Et puis, d'un coup, ça va partir. Musique cubaine et puis reggae mélangé. Et puis, tout le monde danse, tout le monde saute partout et... Voilà, c'est super bien dosé. Je vous invite à aller découvrir ce qu'il fait.
On mettra ça sur la page Facebook.
Tout à fait. Et donc, le deuxième album n'est pas encore sorti puisqu'il arrivera qu'en mai. Mais vous pouvez déjà le préacheter donc, sur son site davyreed.com. Donc, D-E-V-I-R-E-E-D.com. Et sinon, Essence of Life, donc l'album d'avant, est déjà disponible donc, sur toutes les plateformes de téléchargement, sur son site internet également. Et donc je vous rappelle juste voilà, que c'est un album autoproduit, qu'il est jeune, qu'il est chez nous et qu'il a beaucoup de talent. Donc vous en faites ce que vous voulez, puis on écoute un peu plus fort Raga Libre. I'm a smart and clever. Rich bowl up, I never break, no, never. Rock a goofing bowls, no, they hot straight flavor. He knows that girl is in the switch off shiver. Below sometimes, yes, lower than the tuba. Music and fun, gift and thing. Raga Libre, pase amor para el hombre. Coming on the dance, this is the real. Raga Libre, más alegría para el hombre. Estamos conectados como siempre. Raga Libre, pase amor para el hombre. Coming on the dance, this is the real.
Et bien, merci beaucoup Julia pour c'était très sympa, franchement. Voilà, on a
plaisir.
Hâte de d'écouter un petit peu plus, d'écouter déjà tout le premier album et de découvrir les nouvelles productions.
Allez, n'hésitez pas à aller le voir sur scène, il a vraiment une super énergie.
Très bien, merci beaucoup Julia, tu as parfaitement bien rempli ton rôle de venir remplacer Caroline dans cette émission.
D'ailleurs, Caroline, tu es virée.
Voilà.
Mais oui, voilà. Non, elle a préféré les beaux yeux de Frédéric Lopez.
Chacun ses beaux yeux.
C'est ça. Allez, c'est le moment du portrait chinois juste après ça. Alors, comme vous êtes trois, on va faire tourner un peu les questions et bon, on essaiera de voilà, vous passerez le micro. Alors, si vous étiez, on va commencer. Si vous étiez un animal, un animal qui vous inspire.
On va pas dire le loup parce que sinon ça va être un jaguar. J'aime bien les jaguars.
Un loisir.
La course à pied.
Un endroit préféré en Lozère.
Un terrain au-dessus de chez ma grand-mère où j'ai une super vue et où j'y monte souvent avec elle, donc c'est très très bien.
Et vous trouverez des photos de ce terrain sur la page Facebook de Thomas Pouget.
Et sur l'Instagram de Thomas Pouget.
Un endroit préféré dans le monde.
J'ai pas encore visité tout le monde là, mais le Montana, ça me plairait bien.
Une drogue favorite.
Une
drogue favorite.
On se drogue pas.
Non mais il y a des drogues légales.
Oui,
hein,
je sais, vous allez me piéger. Mais ça se trouve, il y a ma mère qui écoute. Drogue favorite. Course à pied.
Ok, une citation.
Poème de Baudelaire, enivrez-vous, il faut être toujours ivre, mais de quoi, de vin, de poésie ou de vertu à votre guise.
Une qualité.
Sympa.
Un défaut.
La course à pied. Un défaut. Le perfectionnisme.
Un plat préféré.
Vous tombez mal, je suis végétarien. Là. Un plat préféré, un aligot.
Parce que les végétariens ne mangent pas.
Non, jamais. Non, c'est vrai, il y a beaucoup de plats avec des viandes. Non, un aligot, un bon aligot.
Bah, c'est pour ça que ce qu'on a mis sur la table. Il y a des cornichons. Yes.
Un verbe ou un mot.
Un verbe ou un mot.
Tic-tac.
Rêver.
Héros de fiction.
Ou une héroïne. Ah ben on parle plus de drogue là, on a dit qu'on n'avait pas. Allez, venez voir mon spectacle. Donc, attendez. Un héros de fiction. Rocky Balboa.
Et pour terminer, un rêve.
Celui de continuer à travailler ensemble.
Et alors, je pense que c'est très en lien. La deuxième coupure musicale de cette émission, votre choix, un titre d'Aldebert.
Ah ouais, je vous fais la transition. Les amis de Aldebert, ouais.
Et alors, pourquoi ce titre?
Il faut écouter les paroles et pour moi, ça résume très très bien ce qu'est l'amitié. Et puis c'est parce que c'est Aldebert et Besançon et puis on s'est rencontrés.
Les Byzantins, ouais. Puis donc voilà, c'est là où c'est connu.
Voilà.
Allez, on écoute. Ça veut bien.
Quelque chose les retient malgré les différences. Quelque chose de commun peut-être dans l'enfance. Les sujets interdits, les casseroles bien planquées, les petits soucis, les fous rires embusqués. Ceux qui se connaissent depuis les bancs du collège, depuis le Rubik's Cube et les pantalons neige. Les souvenirs en escalier se dessinent et prennent la pose. Plus besoin de parler pour se dire les choses. Un ami, c'est quelqu'un. Quelqu'un qui vous connaît bien et qui vous aime quand même. et qui vous aime quand même. De vacances en partage, de naissance en mariage, qu'ils ont dû être sages pour avoir tant d'images. Les galères de Mélanie, les coups de foudre de Clément, de toutes les familles, celles qu'on choisit vraiment. Quelque chose de fragile malgré les apparences, on trouve de l'argile derrière la faïence. Lorsqu'ils tirent leur révérence, délaissent leurs presque jumeaux, bien souvent l'absence est le plus grand des maux. Un ami, c'est quelqu'un, quelqu'un qui vous connaît bien et qui vous aime quand même, et qui vous aime quand même. Pour ces négociés moments de chance, pour ces sentiments à échéance, à nos amis précieux, à nos fourmis dans les yeux. Et qui vous aime quand même, et qui vous aime quand même. Un ami, c'est quelqu'un, quelqu'un qui vous connaît bien, et qui vous aime quand même, et qui vous aime quand même.
Et voilà, troisième partie de Los Actuali, c'est la rubrique hashtag. Alors les hashtags de la semaine, on va les faire rapidement. Il a été question pour avec le hashtag Lozère de SUDLP. Vous le savez, c'est la start-up dans le pré, c'était nos précédents invités. Et ben, il y a eu le lancement à Paris de l'opération, la première journée de formation des coachs du groupe Accenture qui a eu lieu ces derniers jours, et forcément notre amie Adeline était active sur les réseaux sociaux avec le hashtag Lozère, et donc elle est forcément dans cette revue de hashtags. À noter aussi un hashtag cinéma québécois avec le début du festival 48 images secondes, hein, c'est ça, hein, à Florac, on les avait reçus l'an dernier, et puis ça a fait vivre aussi le week-end en Lozère, c'était De la botte à la toque, organisée par les jeunes agriculteurs à la grande halle d'Aumont-Aubrac.
On parlait des fêtes agricoles. Voilà.
Ouais.
Il y en a encore.
Il y en a encore.
Et heureusement.
Avec un beau concours de cuisine et un vainqueur qui était l'équipe coachée par Martial Paulet, donc de l'Adonis à Florac. Voilà. Dans les hashtags aussi de la semaine, évidemment, Caroline n'est pas là, le notaire inconnu, ça sera pour ce soir, mais elle a fait tellement de papiers dans l'édition régionale, dans l'édition locale, etc., qu'on en a entendu parler de cette fameuse émission avec Malik Bentala, qui teste le concept de rendez-vous en terre inconnue en France, donc à découvrir ce soir sur France 2. Sur les hashtags de la semaine au niveau national et international, il y a eu un peu de buzz hier donc avec le hashtag Macron-Bernardin, avec le discours prononcé par Emmanuel Macron devant la conférence des évêques de France, avec des tweets qui ont été repris mais qui n'étaient pas non plus la totalité. Donc voilà, je crois qu'il faut relire le discours en entier, je crois que ça aidera à tout le monde. Et puis un hashtag aussi qui a été pas mal présent sur l'actualité nationale et internationale cette fin de semaine, c'était le Paris-Roubaix. Et voilà, on peut noter que malheureusement, il y a eu le décès d'un jeune cycliste belge qui a fait une chute sans doute précédée d'un accident vasculaire cérébral. Donc voilà, en tous les cas, ça a endeuillé un petit peu cette course mythique du Paris-Roubaix. Voilà, et on parlera vélo forcément dans cette année qui verra plein de choses se passer sur cette thématique, puisque bah, il y avait aussi, il y a quelques jours, en Lozère, le lancement du comité de pilotage pour l'accueil bah, du Tour de France, une fois de plus cet été en Lozère, autour de Madame la Préfète. Voilà pour les hashtags de la semaine. Tout de suite après, la revue de presse.
Loz Actuali.
Alors, la revue de presse, Eric, hashtag Radio Londres.
Ici Londres. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Gabriel garde l'anonyme. Le manchot la serre dans ses bras. Nous disons le manchot la serre dans ses bras deux fois.
Voilà, c'était Frank Bauer. Donc c'était la voix et donc l'image un peu de Radio Londres. Il avait été engagé justement pour sa voix, parce qu'il pensait que sa voix pouvait en fait brouiller les... Et enfin non, résister justement au brouillage allemand. Donc en fait, voilà, c'est ça. Donc on se rappelle, ça a commencé par la 5e symphonie de Beethoven, puis Frank Bauer prononçait le fameux « Les Français parlent au français ». Donc 578 fois exactement, lui, il l'a prononcé. Puis après, il diffusait des messages codés. Donc lui, il a eu « Le crabe va rencontrer les serpents » ou « Le cheval envoie ses voeux à Polydore, sa filleule et ses amis ». Alors, outre ces messages, en fait, c'était le seul lien qu'avaient beaucoup de résistants et beaucoup de Français avec Londres. Donc voilà, ils se considéraient un peu comme le PPDA, quand PPDA existe encore. Et donc voilà, après la guerre, à la Libération, il est devenu reporter de guerre à l'AFP, puis entra au ministère de la Culture. Donc voilà, la dernière voix de Londres s'est éteinte. Je répète, la dernière voix de Londres s'est éteinte.
Merci Eric. Effectivement, c'était...
À l'âge de 99 ans. Ouais. Ouais.
Et donc,
c'était le père d'Axel Bauer.
Ah, ok.
Ah oui, ok.
Voilà, c'était en plus voilà
un petit écho, non, effectivement.
Un écho à la radio,
Merci pour cette revue de presse, effectivement, on en a entendu parler en ce tout début de semaine. Alors moi, de mon côté, une fois n'est pas coutume, comme Caroline n'est pas là, je prends un article de Midi Libre aujourd'hui, un article qui évoque la révolte qui commence à naître en région, puisque l'INAO annonce la fin des liqueurs régionales, puisque voilà, il y a une nouvelle norme qui, on en parlait tout à l'heure, voilà, je vous le voilà, c'était l'occasion, ça fait un petit écho à ce que vous évoquiez tout à l'heure, puisque voilà, donc les bouilleurs de crue qui s'annoncent comme menacés, puisque donc il y a une proposition de changement d'élaboration de leurs eaux de vie. Cet alcool qui jusqu'ici est obtenu par distillation simple ou double d'une boisson faiblement alcoolisée appelé piquette en mouillant le marc, devait l'être dorénavant en distillant directement le même marc. Voilà. Et c'est le principe qui est fait dans la région de Cognac avec tous les alcools. Voilà. Et donc, c'était par contre, pour le Languedoc-Roussillon, un fonctionnement qui était tout à fait différent, puisque, parfois, effectivement, lié à des sous-produits qui restent liquides, hein, qui sont pas forcément du marc, notamment dans la région de Bagnols, etc. Ce qui renvoie à faire des produits qui risquent de se rapprocher de l'eau de vie italienne, la grappa, alors que celle-ci a beaucoup moins d'intérêt vis-à-vis des consommateurs. Et donc voilà, c'est un petit peu de réaction dans la presse régionale autour de ces liqueurs régionales. Et donc, c'était l'occasion d'en faire un petit écho. Voilà, j'ai trouvé que c'était un sujet rigolo. Puis effectivement, ça parlait un petit peu des nouvelles normes. Et voilà, pour l'eau de vie, voilà. Je disais que ça pouvait être sympa.
Parce qu'ils étaient alcooliques. J'ai pas compris le lien tout de suite.
Ah non, on n'est pas alcoolique, non. Non, c'est parce qu'on parle de normes.
Voilà. C'est la fin de cette émission. Donc rendez-vous vendredi 20 avril à 20h30 au théâtre Gérard Boulet au rond-point de l'usine à Saint-Chély, voilà pour la sortie de résidence du spectacle Scène de la vie rurale, au moins dans
titre provisoire. Dans, voilà, ouais.
C'est un titre provisoire, mais en tous les cas,
qui ne parle pas que d'agriculture.
Voilà. Et du projet que.
Si vous avez des idées de titres, vous pouvez les mettre sur Facebook.
Ouais. Hashtag la joie errante.
Hashtag Nîmes ou Saint-Étienne.
Voilà, vous pouvez bien sûr écouter cette émission le jeudi à 19h, le mardi à 12h30, et puis bien sûr nous retrouver sur nos réseaux sociaux. On retrouvera l'artiste dont nous a parlé Julia. Voilà, donc et puis les annonces de cette sortie de résidence le 20 avril à Saint-Chély. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à
merci
nous.
À vous.
Bonne
merci,
quinzaine
merci,
à tous.
Merci à vous.
Et à bientôt. Je crois qu'on se reverra que dans 3 semaines, mais on vous en dira plus sur les réseaux sociaux là aussi. À bientôt.
Au revoir.
À bientôt,
au revoir.
Au revoir.
Loz Actualité.